VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Afrique du Sud, une motion de défiance contre le président sud-africain Jacob Zuma sera débattue demain jeudi au Parlement s'il n'a pas remis d'ici là sa démission comme le lui a ordonné son parti, l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le trésorier général du parti, Paul Machatile, lors d'une conférence de presse au Cap. On procède avec la motion de défiance demain pour que le président Jacob Zuma soit démis de ses fonctions et que nous puissions élire l'actuel patron de l'ANC, Cyril Ramaphosa, au poste de président de la République, a souligné M. Machatile en ajoutant que l'ANC ne peut pas attendre plus longtemps. Pour être adoptée, la motion de défiance doit recueillir la majorité absolue des 400 députés du Parlement. L'ANC dispose de 249 sièges. Plus de détails sur le bras de fer entre l'ANC et le chef de l'État avec Jacques Aristide.
Depuis son arrivée à la tête du parti en décembre dernier, le vice-président Cyril Ramaphosa cherche à pousser vers la sortie le chef de l'État éclaboussé par les affaires de corruption afin d'éviter une catastrophe aux élections générales de 2019. Après des semaines de tractations et d'atermoiements, la direction de l'ANC s'est enfin décidée hier à exiger le départ de Jacob Zuma. La nouvelle très attendue a été accueillie par un ouf de soulagement qui s'est toutefois rapidement évanoui, faute d'un calendrier imposé à Zuma. Le secrétaire général du parti, Assé Magashule, a assuré que le président avait accepté le principe de se retirer, mais à ses conditions, dans un délai de 3 à 6 mois, jugé inacceptable par l'ANC.
Au Burundi, la police met en garde ceux qui militent pour le non au référendum constitutionnel prévu en mai. Un scrutin très contesté qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. La campagne officielle ne commencera que 2 semaines avant le référendum et selon les autorités, personne n'est encore autorisé à défendre ouvertement le oui ou le non. Un professeur de collège et 4 élèves ont été arrêtés pour ce motif. Mais l'opposition dénonce ce qu'elle appelle une politique de 2 poids, 2 mesures. Les opposants notent que le parti au pouvoir n'hésite pas à faire déjà campagne pour le oui. En République démocratique du Congo, 5 personnes sont mortes et 11 ont été blessées hier soir lors d'un accident du cortège du président Joseph Kabila sur la route de Matadi dans le sud-ouest du pays. Un véhicule de l'escorte présidentielle a été percuté par un poids lourd qui transportait du ciment. 3 militaires de la garde républicaine ont été tués ainsi que 2 riverains qui se trouvaient sur les lieux. RDC toujours, les violences continuent au Kasaï dans le centre du pays. Les corps d'un chef traditionnel et de son épouse y ont été retrouvés 48 heures après leur enlèvement par des miliciens. Le point avec Dili Diko.
Le chef Badibanga Kamenga et son épouse ont été enlevés dimanche par des jeunes de la milice Kamuinan-Tsapu. Le corps du chef a été découvert sans tête ni bras droit. Sa femme a été égorgée, a indiqué Edouard Ntumba, maire de la commune de Kananga. Selon M. Ntumba, ces jeunes miliciens accusaient le chef coutumier, Badibanga Kamenga, de les avoir dénoncés auprès de l'armée congolaise. Une affaire qui remonte au 8 janvier, lorsque les forces de l'ordre avaient démantelé un de leurs camps à Kantolé, un village situé à 30 km de Kananga, grande ville du Kasaï. Le maire a ajouté qu'en représailles, le fils du chef défunt a incendié 40 maisons dans un village voisin et enlevé 4 personnes lors de cette incursion. Depuis septembre 2016, le Kasaï a basculé dans des violences meurtrières suite à la disparition de Kamuinan Tsapu, chef tribal tué dans une opération militaire après s'être opposé au pouvoir de Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant. Au Nigeria, le procès des présumés membres du groupe djihadiste Boko Haram continue à Kaenji dans le centre du pays. Le jugement est expéditif. Abba Oumar, arrêté en 2014 alors qu'il avait 18 ans, se présente comme un commandant de l'armée islamique. Le seul témoin appelé à la barre par le parquet affirme que le jeune Oumar retournerait aussitôt dans la forêt de Sambisa, bastion du groupe djihadiste, s'il venait à être libéré. Le juge prononce alors sa sentence, la plus lourde infligée depuis la reprise du procès des islamistes à Kainji cette semaine. Abba Oumar est reconnu coupable de 5 chefs d'inculpation, dont tentative d'attentat suicide dans une école et planification d'attaque armée dans l'état de Borno, épicentre de la rébellion. La sentence, 127 ans de prison non cumulative, soit les 60 prochaines années derrière les barreaux. Les auditions au procès durent de 30 minutes à 2 heures maximum. Au Burkina Faso, une vingtaine de policiers d'un commissariat du nord du pays ont abandonné leur poste en début de semaine pour protester contre leur manque de moyens face aux attaques djihadistes. Le commissariat du district de Déhou, ville de quelques 20 000 habitants près de la frontière du Mali, a été fermé lundi soir. Le commissaire et l'ensemble de ses hommes ont quitté la ville, a déclaré à l'AFP un habitant de Déhou. Les éléments de la police, une vingtaine, avec en tête leur commissaire, ont effectivement quitté la ville sous escorte, a confirmé une source sécuritaire, précisant que les autres corps militaires et paramilitaires y sont toujours en poste. Après le départ des policiers, plusieurs enseignants ont également abandonné leur poste, entraînant la fermeture de nombreuses écoles. Cependant, des dispositions étaient vite prises et le commissariat a été de nouveau rouvert dès le lendemain, a confirmé une source policière sous couvert d'anonymat. Le nord du Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes depuis 3 ans. Des attaques qui ont fait 133 morts, selon un bilan officiel. Actualité hors d'Afrique maintenant, en Israël. La police recommande au parquet d'inculper le chef du gouvernement pour corruption dans 2 dossiers. Les enquêteurs croient disposer d'éléments suffisamment probants, mais le Premier ministre Benjamin Netanyahou rejette ces accusations en les qualifiant de sans fondement. Les détails avec Abdourahmane Dia.
La décision de mettre officiellement en examen Benjamin Netanyahou dépend maintenant du procureur général qui pourrait prendre son temps avant de trancher. Dans un communiqué, la police a indiqué qu'il existait suffisamment de preuves contre le Premier ministre pour l'inculper. Il est accusé d'avoir accepté des pots de vin pour fraude et abus de confiance dans 2 affaires. L'enquête de la police a pris 2 ans. Lors d'une intervention télévisée hier soir, Benjamin Netanyahou a réfuté les accusations de la police et exclu de démissionner. Notre gouvernement terminera son mandat et je suis sûr qu'aux prochaines élections de novembre 2019, j'obtiendrai de nouveau votre confiance, a assuré le Premier ministre. Ces recommandations n'ont aucune valeur juridique dans un pays démocratique, a-t-il ajouté. Dans l'une des 2 affaires, Benjamin Netanyahou est soupçonné d'avoir reçu des pots de vin sous forme de cadeaux, comme des cigares de luxe dont il est friand, de la part de riches personnalités. La valeur totale de ces présents a été chiffrée par les médias à des dizaines de milliers de dollars.
Aux États-Unis, nouvelle mise en garde des chefs des services de renseignement. L'ingérence de la Russie dans la politique américaine continue d'après eux et menace les élections de mi-mandat prévues en novembre. L'avertissement est venu notamment de Dan Coats, le directeur du renseignement national, lors d'une audition au Sénat hier à Washington. Les précisions d'Éric Manirakiza.
Faux compte sur les réseaux sociaux, campagne de désinformation, piratage, Dan Coats considère que les élections de mi-mandat en 2018 seront une cible pour des opérations d'influence russes. Les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Google sont accusés depuis plusieurs mois d'avoir malgré eux servi de plateforme à la propagande russe. Twitter a ainsi fermé près de 4000 comptes douteux liés à une agence de propagande numérique basée en Russie. Facebook a pour sa part admis qu'environ 150 millions d'utilisateurs de son réseau et d'Instagram ont vu des contenus créés par des opérateurs russes pour influencer la présidentielle. Récemment, le secrétaire d'État Rex Tillerson a menacé la Russie de faire face à des conséquences si elle intervenait dans les élections de novembre. Il a reconnu toutefois qu'il serait très difficile de l'en empêcher. En novembre, les démocrates visent à reconquérir la majorité à la Chambre des représentants. Les 435 sièges seront remis en jeu et le tiers du Sénat sera renouvelé avec 33 sièges. Plusieurs enquêtes parlementaires ont été ouvertes et le ministère de la Justice a nommé un procureur spécial aux pouvoirs étendus. Il tente de faire la lumière sur des soupçons de collusion entre l'équipe de campagne du candidat républicain et la Russie.
Et pour terminer, toujours aux États-Unis, nouvelle décision de justice favorable aux Dreamers, les jeunes migrants clandestins protégés par le gouvernement. Un juge de Brooklyn dans l'État de New York a suspendu hier la décision du président Donald Trump de mettre fin à ce programme de protection. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.